rencontre sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, rencontre avec le président de la mosquée de Mantes-la-Ville, président de l'association des œuvres sociales de la mosquée, Abdelaziz El Jouhari. Alors que plusieurs associations soupçonnées de promouvoir un islamisme radical sont dans le viseur des autorités, regard sur une association qui œuvre pour le vivre ensemble et qui prône un dialogue apaisé. Entretien avec Abdelaziz El Jouhari qui ces derniers jours a rencontré des jeunes gens qui fréquentent la mosquée et ses cours pour leur parler du droit à la caricature. Il revient tout d'abord sur la volonté du gouvernement de dissoudre certaines associations considérées comme étant séparatistes. Le président de la mosquée de Mantes-la-Ville, président de l'association des œuvres sociales de la mosquée.
Oui, bonsoir à vous et à tous vos auditeurs. Le gouvernement a annoncé un projet pour l'instant, d'après ce qu'il en ressort de dissolution d'une cinquantaine d'associations. On n'a pas forcément la liste des associations en question, donc il y en a quelques-unes qui ont été citées dans la communication du gouvernement. Cependant, si ces associations en question dérogent à la règle républicaine ou à la loi, il est tout à fait normal de demander à leur gestionnaire des comptes. C'est une évidence pour tout un chacun. Mais il serait important qu'en parallèle, que les associations, justement, et elles sont immense majorité, que les associations et les institutions musulmanes qui, elles, justement, travaillent dans le sens de l'intérêt général et du bien commun, puissent être encouragées et puissent être soutenues, justement pour éviter cet esprit d'amalgame ou cet esprit de discrédit sur les institutions musulmanes ou le ressenti de la part d'une partie de la communauté musulmane que c'est un traitement particulier la concernant.
Vous présidez l'association Mantes Sud. Vous demandez aujourd'hui ce soutien aux autorités ?
C'est pas juste pour notre association, c'est pour toutes les associations. Elles sont extrêmement nombreuses. D'ailleurs, ils travaillent au quotidien dans tous les champs, dans le champ du culte, dans le champ social, culturel, dans l'échange, en effet.
Est-ce que vous pouvez nous faire part des actions que vous menez au sein de votre association et notamment des actions que vous avez menées suite à cette tragédie, la décapitation de ce professeur d'histoire-géographie Samuel Paty ?
En effet, cette tragédie nous a secoués comme l'ensemble de la communauté des fidèles et de nos concitoyens parce que cette barbarie ne peut pas être justifiée par aucune loi ni du ciel ni de la terre d'ailleurs. Nous ne pouvons pas comprendre ni cautionner ce genre d'acte. Donc on a une pensée très forte pour sa famille qui a subi ce deuil tragique et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris pendant sa vie, il a été caricaturé, certes pas par le dessin, parce que c'était pas la forme artistique la plus répandue dans la péninsule arabique à son époque, mais par la poésie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été caricaturé plus d'une fois. Il n'a jamais eu cette réaction, ni à interdire aux uns et aux autres, et ceux notamment qui ne croyaient pas en lui de le caricaturer, encore moins d'appeler à de la violence ou d'accepter de la violence à leur encontre. Et donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nous, on peut dévier justement faire usage de la violence dans ce genre de situation. On a le droit d'être heurté en tant que musulman par ces caricatures ou par d'autres événements, mais par contre, en aucun cas, on a le droit d'empêcher les autres de s'exprimer. Donc il y a des opinions qui ont été exprimées. Dans une société saine, cette différence de point de vue devrait plutôt nous amener à dialoguer, à discuter, à échanger sur cette différence de point de vue, et pas forcément à se battre les uns contre les autres.
Dialoguer, échanger, c'était le besoin de nombreux parents d'élèves qui sont venus vous rencontrer.
En effet, au sein de l'Institut de formation de la mosquée, suite à cet événement tragique, forcément, les enfants, les parents ont vu ça à longueur de journée sur les télés, les radios et autres. Et parfois, les parents ont manqué de mots ou manquer de références religieuses pour tout simplement resituer tous ces débats-là pour leurs enfants. Donc en effet, certains de nos parents d'élèves nous ont demandé aussi du soutien de ce point de vue-là. Et de toute façon, nous avions pris la décision, en effet, d'aborder ce sujet avec l'ensemble de nos élèves, mais voilà, répartis en plusieurs groupes pour permettre des échanges et donc libérer la parole dans un premier temps avec les enfants. Donc on avait à la fois des primaires, des collégiens, des lycéens. Pouvoir libérer la parole et deuxièmement, donner des repères justement sur ce qu'on peut et ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire et que il n'y a rien dans notre référentiel musulman justement pour justifier ces pensées morbides qui incitent à la haine ou qui légitiment l'usage de la violence.
Les enfants que vous avez rencontrés, quelles questions vous ont-ils posées ? Ils ont été bien entendu frappés eux aussi par cette tragédie.
Ils étaient très frappés par cette tragédie. Donc ces ateliers de parole ont fait beaucoup de bien parce que déjà pour pouvoir vider un peu ce qu'ils avaient sur le cœur, mais tout simplement ils étaient aussi pleins d'interrogations sur le fait du lien qui est fait entre cet acte barbare et l'islam et les musulmans, mais aussi ils ont aussi exprimé des craintes, est-ce que à cause de ça la communauté musulmane, les musulmans et les mosquées vont être pourchassés, donc ils avaient plein de craintes de ce genre, donc on a dû reprendre tous ces éléments et leur donner aussi des repères à la fois dans l'histoire musulmane mais aussi dans nos références religieuses pour qu'ils puissent faire le tri la distinction entre tout ce qui peut être de dimension religieuse et tout ce qui peut être tout simplement de la haine injustifiée et des choses qui n'ont rien à voir avec la religion.
Vous nous dites que de jeunes enfants ont exprimé cette crainte ?
Bien sûr, exactement. Ça nous a frappé nous aussi, donc dans des interventions encore aujourd'hui, j'ai eu des élèves qui sont très jeunes, hein, en primaire et au collège, qui ont fait part de leurs craintes et que pour eux, il y avait des policiers qui chassaient les musulmans à Paris et qui s'en prenaient aux mosquées et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu les phénomènes d'amplification. Et donc déjà, il y a une déformation de la réalité, donc c'était important de revenir sur les faits, strictement les faits, que ce soit sur la tragédie qu'il y a eu à Conflans-Sainte-Honorine, mais aussi sur ses conséquences, parce que il ne faut pas non plus donner l'image que, qu'en France ou qu'à Paris, on a organisé la pourchasse des musulmans, ce qui est complètement faux et qui est complètement loin de la réalité.
Ne pas se victimiser, c'est un élément très important.
Et c'est même fondamental. Donc je pense que dans des moments aussi tragiques que ça, donc nous on l'a fait à notre petite échelle, au sein de notre institut de formation de la mosquée, mais je pense qu'il serait salutaire que dans les autres lieux de culte, que ça se fasse, parce que dans nos institutions se croisent des centaines de milliers d'élèves, de collégiens, de lycéens, et donc de leur donner les repères nécessaires. Mais il serait peut-être même salutaire d'organiser des rencontres entre des autorités ou des institutions religieuses, l'éducation nationale, les élus locaux, et donc de permettre des débats ou des rencontres dans des salles plus grandes avec les collégiens, les lycéens. Moi, j'ai déjà eu l'occasion et même le plaisir d'y avoir participé, de l'avoir organisé, par exemple à la mairie de Poissy, qui avait fait appel à moi sur ce sujet-là. Donc on a dû diffuser dans le grand cinéma de Poissy le film « Le ciel attendra » avec des collégiens et des lycéens, et suite à la projection du film, donc on a eu des débats avec les élèves, donc c'était fort intéressant. Que ça a eu beaucoup de succès, donc même les établissements scolaires d'autres établissements scolaires en ont demandé pour leur propre établissement, pour leurs propres élèves. Dans ces moments tragiques, je pense qu'il est important de libérer la parole, il est important d'organiser les rencontres, et justement, et d'éviter que chacun se recentre sur lui-même et sur ses propres ressentis et amplifie des phénomènes qui n'existent pas.
Des rencontres avec des collégiens, des lycéens, en faisant abstraction de leur religion ou de leur absence de religion.
Exactement, et justement de faire comprendre qu'on est dans une société plurielle et que le cadre de la laïcité ne permet à chacun dans sa sphère privée de croire ou de ne pas croire, ou de pratiquer ou de ne pas pratiquer, mais on doit composer ensemble parce que nous formons une seule et même nation, une seule et même société, et qu'à partir de là, c'est même pas encore mieux, c'est-à-dire de s'entreconnaître. Donc que les croyants comprennent les positions d'un non-croyant, l'inverse, et même ne pas se faufiler vis-à-vis même des sujets qui peuvent être considérés comme tabous ou à risque pour les uns et les autres, parce que ce n'est pas parce que vous allez vous prémunir d'aborder un sujet qu'il ne sera pas abordé, il le sera d'une manière ou d'une autre. Donc ces enfants, par exemple, que nous rencontrons, ces élèves, si on ne leur aborde pas ces sujets, ils l'abordent entre eux. Certains ont des téléphones portables, ils ont accès à Internet, ils ont accès aux réseaux sociaux, donc ils voient, ils entendent un tas de choses, ils voient des vidéos, ils voient des interventions, ils voient des échanges. Donc voilà, donc ce n'est pas parce que vous leur en parlez pas que qu'ils n'absorbent rien en la matière, bien au contraire. Donc nous, on a été fort surpris par la quantité d'informations qu'avaient ingurgité les enfants, y compris à cet âge-là, sur ce sujet.
Des informations parfois erronées.
Parfois erronées, en effet. Donc sur la réaction des autorités ou sur le déroulement même de cet assassinat, voilà. Ou parfois les enfants qui pensaient que c'était le prof lui-même qui a fait des caricatures et qui a empêché des enfants musulmans d'assister aux cours, des choses comme ça. Donc en effet, donc il est important de revenir déjà premièrement sur les faits pour situer les choses et deuxièmement rentrer dans une discussion sur le fondé ou pas de tel ou tel positionnement et surtout de l'importance qu'on doit accorder collectivement à la possibilité de chacun justement de forger ses opinions basées sur une connaissance, mais une connaissance fondée, non pas sur des a priori, non pas sur des approximations.
Et vous rappelez à ces enfants que la religion n'est pas seulement une pratique, mais que c'est aussi un comportement, ce sont vos mots dans un interview accordé aux Parisiens.
En effet, donc c'était l'occasion de rappeler aux enfants que la religion, l'islam, n'est pas juste un corpus de pratiques religieuses. Et que on leur donnait l'exemple que justement pour marcher on a besoin de deux pieds, d'être sur ses deux pieds, et qu'il y a la dimension de la pratique religieuse, mais de l'autre côté il y a le comportement, et que le bon comportement, il est fondamental, et c'est ce qui donne sens à notre pratique religieuse, parce qu'une pratique religieuse dénouée de moralité, dénouée de bon comportement, elle n'a aucun sens, elle n'a aucun fondement. Et plus que ça, donc nous avons même donné l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait justement de l'image du croyant, en disant que le croyant c'était comme un arbre fruitier. Donc on lui jette un caillou et en contrepartie il nous jette un fruit. C'est-à-dire que même en cas même d'agressivité, on peut pas répondre par l'agressivité, par la violence, et que le croyant est amené à prendre un peu le dessus, avoir un peu de hauteur par rapport aux événements et par rapport aux situations, et d'essayer justement de plutôt converger vers des choses positives, des choses qui peuvent faire avancer une situation.
Et ce comportement, il se traduit notamment au sein de votre association par des actions concrètes que vous menez en partenariat avec le Secours Populaire pour aider les plus vulnérables.
En effet, donc nous avons une association caritative qui est dédiée justement à la solidarité avec les plus démunis. Et donc on travaille en étroite collaboration, vous l'avez cité, avec le Secours Populaire, mais on travaille aussi avec le Secours Catholique, on travaille avec la Ligue des Droits de l'Homme, on travaille avec Emmaüs, la Croix-Rouge locale. Donc on travaille avec toutes ces organisations, justement dans une étroite collaboration, se répartit un peu les tâches, parce que malheureusement la misère elle est grande, et que la situation socio-économique n'est pas évidente en ce moment pour beaucoup de foyers, sans parler des personnes qui sont déjà dans la rue. Et donc, en effet, nous organisons des maraudes pour la distribution de repas chauds, des distributions de colis alimentaires. Donc, nous ravitaillons plusieurs centaines de foyers sur notre bassin de vie toutes les semaines. Donc, on a plusieurs dizaines de bénévoles qui sont à la tâche toutes les semaines. Puis nous organisons aussi de l'hébergement d'urgence au sein de la mosquée, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont dehors dans des voitures et il commence à faire froid, mais même si c'est une activité que nous on fait toute l'année. Et donc voilà, donc nous avons deux dortoirs pour 8 personnes, et quand on est débordé, ce qui arrive malheureusement souvent, donc on met même des lits de camp dans les salles de prière pour permettre aux gens de dormir au chaud, de pouvoir prendre une douche, de prendre un dîner chaud, un petit déjeuner chaud, et voilà, qu'on puisse les mettre à l'abri. Donc nous avons un public divers et varié, des célibataires, mais nous avons aussi beaucoup de femmes isolées, et même des femmes avec enfants, qui peuvent nous être, qui peuvent se présenter chez nous, mais qui peuvent aussi être orientées par les assistantes sociales, par l'hôpital, par d'autres organismes. Et dans le cadre de cette action, c'est quelque chose qui s'adresse à tous nos concitoyens sans aucune distinction, c'est-à-dire que quand quelqu'un se présente chez nous parce qu'il a besoin, on n'a pas besoin de savoir ni sa religion, ni son appartenance, ni voilà. Donc du moment que la personne est dans le besoin, et si on est en capacité de lui venir en aide, on se met en route pour apporter cette aide.
Des associations cultuelles et caritatives sont aujourd'hui dans le viseur des autorités. Vous dites aujourd'hui qu'il ne faut pas mettre l'ensemble des associations dans le même sac, si je puis dire.
Ça serait même une erreur fondamentale. Et en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai lu, je ne pense pas que c'est ça l'état d'esprit des autorités. Mais en effet, ça serait une erreur tragique, hein, parce que il y a beaucoup de travail de qualité qui est fait, y compris par des communautés de croyants qui sont organisées en association ou autour de lieux de culte. Mais là encore, s'il y a des associations qui ne respectent pas les règles ou qui exploitent la misère sociale ou l'aide qui peut être apportée pour d'autres fins, c'est tout à fait normal que les autorités agissent. Ne l'oublions pas, nous sommes quand même dans un état de droit, fort heureusement, et qu'à partir de là, toute structure a aussi le droit de se défendre et de faire valoir ses arguments.
Et des associations chrétiennes, par exemple, aident aussi les plus démunis. Ce n'est pas propre à l'islam. Il n'y a pas de raison de stigmatiser ces associations.
Exactement. Il y a une forte et très ancienne tradition, en effet, chez nos amis chrétiens. En matière de solidarité, en matière d'hébergement pour les plus démunis, ainsi de suite, dans les lieux de culte, dans des associations spécialisées. Et c'est un travail fort intéressant et très utile. Donc la communauté musulmane aussi s'organise, et vous avez beaucoup d'associations autonomes autour de lieux de culte qui font un travail admirable et respectable et fort nécessaire. Donc il faut à la fois, ce que je disais dans le début de cette interview, qu'on soit capable de sanctionner des associations qui ne respectent pas ou qui mettent en péril la concorde nationale ou l'ordre public, mais il faut en même temps justement être capable de soutenir, être capable de mettre en lumière ces autres acteurs qui le font de manière sincère et de manière dévouée, et qui sont une valeur ajoutée pour la République et une valeur ajoutée pour la concorde nationale.
Le président de la mosquée de Mantes-la-Ville, président de l'association des œuvres sociales de la mosquée, Abdelaziz El Jouhari. Fin de cette émission Rencontre. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.